La 1664 est moelleuse, complexe, avec des notes florales et une fine amertume. Oh, je pourrais en parler pendant des heures. Eh bien, je vous réponds qu'avec 30% de remise immédiate, le pack de 28 bières blondes 1664 de 25 centilitres est à 12,88€ seulement au lieu de 18,40€. Et c'est jusqu'à lundi chez Carrefour et Carrefour Market. Carrefour, soit 1,84€ le litre. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Eh oui, ce que l'on remarque en premier chez vous, c'est votre portail. Alors choisissez la qualité J-Pass. Tous les produits J-Pass sur jpass.fr.
RTL.
Il est 14h sur RTL. 14h, c'est le rappel de l'information. Avec vous, Victor Darcas, rebonjour.
Rebonjour Vincent, bonjour à tous.
La flamme olympique enfin française.
Oui, on ramène le flambeau à la maison, allumé le 16 avril dans le site antique grec d'Olympie. Il sera remis tout à l'heure à 17h30, heure française, à Tony Estanguet, le président du comité olympique. La flamme embarquera demain à bord du Belém, destination Marseille, arrivée prévue pour le 8 mai.
Et puis, vous n'avez jamais été aussi nombreux à rencontrer des difficultés pour payer vos factures d'électricité.
Plus d'un million d'impayés en 2023, selon le médiateur national de l'énergie, une hausse de 3% par rapport à l'an dernier, mais surtout presque 50% par rapport à 2019. Les fournisseurs ont donc de plus en plus recours à des limitations de puissance électrique plutôt qu'à des coupures fermes.
Deux des trois principales agences de notation américaines, Moody's et Fitch, se prononcent ce soir sur la situation économique de la France.
Alors que le déficit public atteint désormais 5,5% du PIB, la note pourrait être revue à la baisse. Réponse autour de 22h, la troisième agence de notation Standard & Poor's rendra son verdict le 31 mai.
À présent, un coup d'œil sur le temps, la météo de demain.
Mode, pêche, nautisme, loisirs, tout l'univers de la mer est au comptoir de la mer. Retrouvez les plus grandes marques marines en magasin et sur comptoirdelamer.fr.
Et le temps sera couvert et pluvieux sur une large moitié ouest demain. Le ciel sera temporairement plus dégagé à l'est d'une ligne Perpignan-Reims avec peu ou pas de précipitations. Encore un peu de neige dans les Alpes et sur les Pyrénées à partir de 1800 mètres. Le vent d'est atteindra 90 km/h sur le littoral méditerranéen et le vent d'ouest 80 km/h sur la côte aquitaine. Les températures en hausse le matin 5 à 10 degrés en général, 10 à 12 près de la Méditerranée. L'après-midi très homogène entre 14 et 20 degrés.
Merci beaucoup. Victor Darcas. On va parler d'un sujet évoqué par le président de la République hier, Rachida Dati, sur RTL. On a encore parlé ce matin, l'intelligence artificielle, les bons côtés, mais aussi la menace qu'elle fait planer sur les emplois au niveau mondial. 40% des emplois au niveau mondial seraient touchés bientôt, 60% seront menacés dans les pays les plus développés. Et pour en parler, on va accueillir tout de suite Brigitte Lecordier. Alors, elle est actrice, directrice artistique française. Et elle est surtout connue pour ça.
Eh, c'est vrai, on peut voler? Moi, je voudrais bien essayer. Hop là! Hop! Ça y est! Ouais! Je vais faire du nuage supersonique!
La voix de Son Goku, Brigitte Lecordier. Bonjour!
Bonjour!
Voilà, pour les présentations, c'était peut-être le
Merci.
Plus simple à faire.
Alors, c'est toujours rigolo.
On vous invite aujourd'hui parce que vous êtes à l'origine de la pétition « Touche pas à ma VF ».«
Touche pas ma VF ».«
Touche pas ma VF » sur change.org. Vous cherchez à attendre 35 000 signatures. C'est quoi cette pétition ?
En fait, c'est une pétition parce que, en fait, nous, comédiens, nous ne sommes pas contre l'IA. Hein. On voudrait que l'IA soit légiférée. Afin que notre métier soit ne disparaisse pas, parce que nous, ce qu'on fait avec grâce au doublage, c'est qu'on donne accès à la culture pour tous, et c'est, pour nous, c'est très important, et je sais que c'est important aussi pour notre ministre de la Culture, Rachida Dati, on a souvent parlé, et du coup, nous, on voudrait faire du doublage une exception culturelle. Parce que sinon, en fait, les comédiens américains ont donné leur l'autorisation que l'IA soit utilisée pour leur rôle. Et ce qui fait que, en fait, leur rôle pourrait être doublé dans tous les pays du monde avec leur voix. Avec une voix de l'IA, quoi. Hein, voilà.
Et, le scénario du pire dans 10 ans, qu'est-ce que c'est pour qu'on comprenne bien pour votre métier le doublage ? Parce qu'en France, on est aussi des spécialistes du doublage.
Et ben, en fait, ce qui pourrait arriver, c'est que en fait, ce soit des robots qui donnent les voix avec des voix dont on ne connaît pas la traçabilité, hein, parce qu'on peut prendre votre voix, la mienne, celle du voisin, les mélanger et faire une nouvelle voix. Voilà. Donc nous, on voudrait que ce soit qu'il y ait une traçabilité déjà de l'IA, qu'il y ait des limites à l'IA. Et puis que le doublage soit considéré comme une exception culturelle en France, parce que c'est le moyen de donner l'accès à la culture pour tous.
Et l'exception culturelle, c'est Rachida Dati qui peut vous la donner ?
Absolument, c'est notre ministre qui peut légiférer là-dessus ou faire entendre notre voix au Parlement, voilà. Et c'est hyper important pour nous. Et c'est pourquoi nous avons fait une pétition, effectivement, hashtag touche pas ma VF, qui a à peu près 27 000 signatures en ce moment. Parce que faut se rendre compte que le doublage, en fait, c'est quand même 700 millions de chiffres d'affaires hein, en 2023. Donc c'est pas rien pour l'économie française. C'est des milliers d'emplois, c'est des dizaines et des dizaines de métiers différents, etc. Donc ça touche vraiment...
Notre invité tout à l'heure à la mi-journée nous disait que 99% des métiers dans le monde seraient impactés d'une façon ou d'une autre par l'intelligence artificielle.
Pas. Et puis nous sommes avant tout des artistes. Et ce qui est important aussi, c'est que notre société garde aussi ses artistes et qu'une IA n'aura jamais l'inventibilité, je ne sais pas comment on dit, d'un comédien ou d'un dessinateur ou d'un, parce que faut vous dire que tous les métiers effectivement sont, tous les métiers artistiques sont touchés hein, par ça, que ce soit le dessin, la musique, etc. et beaucoup d'autres métiers encore.
Et pas que. Voilà. Vous restez avec nous, on va accueillir Eric au 3210.
Merci.
Bonjour Eric.
Bien, bonjour à vous.
Alors, l'intelligence artificielle, ça vous a fait composer le 3210. Pourquoi, Eric, votre métier est directement menacé ?
Ah non, pas du tout. Moi, ce que je rêve, c'est avec toute cette technologie, c'est de voir un nouveau film avec tous nos anciens disparus, Coluche, Boris, de Funès, Gabin, tout ça, avec leur vraie voix, avec un nouveau scénario, avec quelqu'un qui sait faire, comme Alain Chabat ou quelque chose, mais de revoir tout ça. Avec toutes les technologies qu'on peut reprendre leur voix, on peut refaire leur personnage, ça serait merveilleux.
Alors, non. Merveilleux peut-être, vous allez peut-être faire des cauchemars à Brigitte Lecordier, là, c'est peut-être tout ce qu'elle souhaite éviter à l'avenir.
Ben, ça fait du boulot au graphologue, ou je sais pas quoi, mais. Moi, j'aimerais bien voir ça une fois dans ma vie, un bon film avec tous les anciens qui seraient là, même tous les figurants, ça serait des gens connus qui nous ont quittés.
Mais vous laissez pas beaucoup de place aux jeunes artistes qui arrivent.
Allez-y, Brigitte Lecordier, oui, vous pouvez lui répondre.
Oui, je t'en prie.
Oui, je dis, vous ne laissez pas beaucoup de place aux jeunes qui arrivent. Et puis, ça serait pas très éthique, non, de redonner vie à des gens qui sont déjà morts. Parce qu'il faut, on n'aurait pas leur consentement. On ne sait pas s'ils auraient envie de tourner dans ce film ou pas.
C'est
grave quand même.
Et oui, Eric, le problème du consentement.
Oui. Si les descendants sont d'accord. Moi, je voudrais bien voir un nouveau film avec tous les gens que j'ai aimés quand j'étais gamin. Mm-hmm. Vous savez, comme on regarde tous les ans La Grande Vadrouille ou tout ça, quoi. C'est...
Dans La Grande Vadrouille, ils sont effectivement extraordinaires. Mais est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est philosophique de faire parler, revivre des gens qui ne sont plus là, leur faire des choses qu'ils n'ont pas choisies ? C'est grave quand même, non ?
Vous restez avec nous, on va parler encore après la pub de ce projet de blockbuster avec Louis de Funès ou Jean Gabin. Et dans un instant, on va accueillir Richard et Hervé. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
Vincent Derosier vous donne la parole sur RTL.
Jimmy Mohamed, Flavie Flamand.
Ça va beaucoup mieux, l'hebdo. Cette semaine, on vous dit tout sur les effets du cannabis sur la santé.
Quelles sont les vertus du thé vert japonais appelé le thé matcha ?
Et faut-il vraiment succomber à la promesse de l'hydrothérapie du côlon ? Eh bien, toutes les réponses à ces questions.
Dans Ça va beaucoup mieux, l'hebdo, le magazine santé et bien-être de vos samedis matins de 9h15 à 10h sur RTL.
RTL, ça va beaucoup mieux.
À demain.
Souvent, on doit faire des choix dans l'aménagement de sa maison. Mais pour votre porte de garage, pas de compromis. Choisissez la qualité J-Pass. Tous les produits J-Pass sur jpass.fr.
Vivez un moment hors du temps et ressourcez-vous au domaine de Chaumont-sur-Loire. Découvrez plus de 30 créations remarquables réalisées dans le cadre du Festival international des jardins. Chaque jardin propose une promenade unique autour du thème Jardin source de vie. Retrouvez le Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire jusqu'au 3 novembre avec RTL.
Mais où peut-on trouver 4 fruits et légumes à prix coûtant chaque semaine?
Ici, dans les magasins U. Il y a plein de fraises à prix coûtant. Et à seulement 2,69€ la barquette. Ah, j'ai couru pour pas rater ça.
Ouh. Retrouvez chaque semaine 4 fruits et légumes à prix coûtant. Du 25 au 27 avril dans vos magasins U, les fraises rondes à prix coûtant sont à seulement 2,69€ la barquette de 500 grammes. Soit 5,38€ le kilo. U. Commerçant autrement.
Catégorie 1, origine France par modalité. Magasin participant sur magasin-u.com.
Chez Poltrone Sofa, le confort est surprenant. Découvrez Savazza et laissez-vous étonner par ses dossiers réglables à un seul geste.
Jusqu'à demain, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 536€.
Venez vous étonner en magasin. Poltrone Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Jusqu'à 14h30,
Vincent Derosier vous donne la parole sur RTL.
Un jour je serai le meilleur dresseur, je fleure à présent les pieds. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis.
Je parcours. Voilà, ça, c'est Johnny Hallyday qui chante le générique de Pokémon. Ça n'est jamais arrivé, évidemment, c'est l'intelligence artificielle. Richard, bonjour.
Oui, bonjour.
Ce que vous entendez là, Johnny qui chante Pokémon avec l'intelligence artificielle, c'est pas une petite inquiétude quand même pour l'avenir?
Alors, si c'est réellement, si l'inquiétude c'est que ça, ça ira.
Non, c'était pour vous dire qu'on peut quand même faire à l'intelligence artificielle n'importe quoi.
Ah ben, alors là-dessus, vous prêchez un convaincu. C'est déjà le cas, même si beaucoup de personnes n'en sont pas conscientes, c'est déjà le cas, je veux dire, mais j'entendais votre intervenante qui parlait des films dans le futur, je veux dire, moi je vais plus au cinéma, parce que maintenant, lorsque je vais au cinéma, je ne vois plus que de la synthèse, je vois plus que, enfin, les mêmes sortes de films, on sait comment une scène d'action va se passer, enfin tout est, moi ce que j'aimais, je rejoins un petit peu le monsieur précédent, j'aimais les films avec des cascades, avec le cinéma me faisait rêver, maintenant si c'est pour être dans un jeu vidéo, ça m'intéresse pas. Donc voilà, si vraiment l'intelligence artificielle n'était que recréer Johnny ou De Funès ou qui que ce soit, ce serait fun, ce serait super de temps en temps, pourquoi pas. Sauf que, et comme j'expliquais tout à l'heure, l'intelligence artificielle est déjà dans nos vies. Lorsque vous téléphonez pour prendre des informations, souvent, alors soit vous avez des plateformes à l'étranger, soit vous avez déjà des robots qui vous répondent. C'est de l'intelligence artificielle. Sur YouTube, vous avez des séries, des reportages où la personne qui parle, c'est directement une intelligence artificielle. Il y a encore quelques défauts parce que certains ont pris des choses qui sont pas à la pointe, mais réellement. Nous sommes déjà dedans. Où les gens ne sont pas conscients, c'est de la guerre qu'il y a autour de cette intelligence artificielle et du pouvoir que ça va donner sur le monde. Pour l'instant, on nous parle des Américains, de ChatGPT.
Et qu'on s'est assez mal évalué aujourd'hui parce que la machine apprend trop vite.
Absolument. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence artificielle il y a 2 ans et demi à peu près, lorsque j'ai débuté ma thèse, qui au départ ne portait pas du tout là-dessus, c'était simplement sur l'amélioration continue et les systèmes un petit peu amélioration continue en production dans l'industrie. Actuellement, il existe déjà des systèmes qui auto-apprennent, c'est-à-dire que certains systèmes de production sont capables de s'auto-évaluer, de contacter un mécanicien pour dire « attention, on va avoir un problème à tel endroit ». Donc, à des niveaux beaucoup plus hauts, l'intelligence artificielle arrive même maintenant à créer des systèmes pour s'aider à répondre à des choses auxquelles elle n'est pas capable de répondre, comme ferait un être humain. Donc, et là, je n'exagère rien. Il suffit de piocher un peu des articles vraiment spécifiques, de lire quelques livres. Là, j'en ai lu un d'un spécialiste chinois qui a travaillé chez Google. Donc, on nous parle des Américains. Il faut savoir que les Chinois sont beaucoup plus en avance, et eux, contrairement aux Américains, où on va dire, lorsque quelqu'un, que ce soit un Facebook, un Google, prend un peu le lead, on le laisse tranquille. Chez eux, c'est plutôt la bagarre à dire, il est bon, mais je vais être meilleur que lui. Donc, on va trouver d'autres systèmes. On va améliorer le système. Le système va s'auto-apprendre. Alors, ça apporte deux choses. Soit ce sera très bien, parce qu'on va avoir des systèmes d'aide en médecine, on pourra faire des opérations pointues du cerveau.
Ça, on le sait, ça existe déjà. Soit ce sera très bien, soit vous craignez que ce soit le grand n'importe quoi.
Eh ben, ça peut tout de suite basculer. Après, donc dans le très bien, tout ce qui est médical, tout le contraire, ce sera les armes autonomes, ce sera les robots guerriers. Donc avec le quid de
les armes autonomes et un scénario à la Terminator. Richard, Brigitte Lecordier, vous avez juste d'un mot quand même. Vous avez entendu Johnny qui chante le générique de Pokémon. C'est le début de la fin, ça?
Ben, ça amuse des gens, mais nous, ça nous amuse pas, parce qu'effectivement, c'est la disparition de nos métiers. Et puis, on n'est pas contre l'IA, hein, comme disait le monsieur. Hein. Au contraire, il y en a partout et c'est un outil génial. Ce qu'on veut pas, c'est que cet outil remplace des humains et remplace des artistes. Hein, une société qui n'a pas d'artistes est une société qui meurt. Vous voulez plus de créateurs, vous voulez plus de gens qui peignent, qui chantent, qui fassent de la musique.
Les règles et les lois existantes ne suffisent pas aujourd'hui, c'est ça aussi que vous dites.
Absolument. Absolument. Et bientôt, eh bien, quand on vous appellera sur RTL, c'est pas vous qui répondrez, ça sera un robot. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est cette société qu'on veut? Enfin, c'est une question d'éthique aussi. Bien sûr, on peut remplacer les gens, mais est-ce qu'il faut remplacer les gens? C'est une question philosophique et d'éthique. Est-ce qu'on veut faire parler les morts, ou est-ce que on voudrait que notre société soit vivante et qu'on fasse des choses avec les jeunes, avec les artistes, avec les gens qui existent? On peut pas toujours être tourné vers le passé. C'est quand même vachement important de se poser ces questions-là, non?
Il faut regarder l'avenir avec plus de sérénité et plus de règles. Bonjour Hervé.
Bonjour, bonjour la station.
Merci d'avoir appelé le 3210. On vous écoute.
Oui, avant d'aborder mon point, je voulais réagir au point du président Macron ce matin, faire de l'Europe et peut-être de la France un acteur majeur dans l'IA. Il y a d'abord une question préliminaire qui est la dépense énergétique, et je pense que ça, c'est un vrai point à interroger. Mon point concernant l'intelligence artificielle, je veux plutôt prendre un contre-pied, j'évoque plutôt une menace vis-à-vis des entreprises. Alors, pourquoi? Parce qu'avant d'aborder l'intelligence artificielle, on a d'abord besoin de l'intelligence naturelle. Et sur le côté assez français, je trouve, pour l'observer de l'intérieur, qu'on a des salariés qui sont de plus en plus désintéressés, désalignés, désengagés, déconsidérés. Et avant d'aboutir à une forme d'intelligence, parce que pour le côté entrepreneur, patron, oui, effectivement, ça peut avoir des effets d'aubaine dans la productivité, la stabilité et l'économie. Mais avant d'en arriver à ces intelligences humaines, alors je ne remets pas en cause bien fondé une intelligence humaine dans des choses complètement disruptives, vous l'avez évoqué au travers des diagnostics médicaux. Mais dans une logique beaucoup plus traditionnelle, et je le vois au travers des projets qu'on peut adresser dans les entreprises, on a des taux de réussite qui sont extrêmement faibles, hein, puisqu'on évoque des taux de réussite dans des projets de transformation liés à l'informatique ou pas, qui sont de l'ordre de 30%. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'écueils et d'échecs parce qu'on n'a plus... moi, j'aime bien évoquer la notion de bon sens, mais pour arriver avant d'avoir des outils intelligence artificielle ou déjà des algorithmes ou de logiciels, il faut déjà arriver à recréer ce bon sens, cette mise en perspective, donner de la vision. Et aujourd'hui, moi, encore une fois, je le constate dans les entreprises...
Menace pour les entreprises.
Ouais, parce que typiquement, l'employé... perd un peu pied, n'est plus vraiment considéré, et donc il est plus forcément à même de donner une part de lui. Et comme on pense que
l'intelligence artificielle vue comme une menace, Hervé, merci beaucoup. On va très très rapidement aller voir Baptiste. Baptiste, vous avez 20 ans, vous êtes étudiant. L'intelligence artificielle menace ou pas?
Bonjour à vous tous.
Bonjour.
C'est une catastrophe, pour être très transparent. À mes yeux, en tout cas, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, pour faire simple, donc je suis en apprentissage en commerce. Et quand je suis amené à aller travailler donc dans mon centre de formation, là où c'est une catastrophe, c'est qu'aujourd'hui, je peux pas dire tous les jeunes, mais une grande majorité, utilisent, exploitent ces intelligences artificielles à leur profit. Alors c'est tout à leur honneur parce que entre guillemets, il n'y a rien qui l'interdit et j'ai envie de vous dire. Les formateurs, malheureusement, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Comme on travaille avec des outils modernes, des ordinateurs, des téléphones et tout ça, c'est compliqué pour certains de ne pas s'en passer. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des élèves, des camarades, des gens comme moi, qui étudient, qui ne se basent que là-dessus, mais qui, le jour de l'examen, vont se casser la tête pour rester poli. Alors, on pourrait très bien dire, je le fais pas, donc tant mieux pour moi. Mais le problème, c'est que, encore une fois, il n'y a rien qui l'interdit. Et malheureusement, c'est trop tard. C'est trop tard parce que ça s'est développé, ça s'est retrouvé sur le marché. Et aujourd'hui, on peut, mais plus rien en faire. Et je pense notamment à une plateforme...
Merci Baptiste. On est obligé.
Il faut qu'il y ait un outil.
Brigitte Lecordier, le mot de la fin, allez-y.
Moi, je dis, il faut que l'IA soit un outil. Et il ne faut pas que ça remplace les humains, ni le savoir, ni rien. Voilà. Il faut que...
Brigitte Lecordier, on rediscutera d'intelligence artificielle avec vous. On a énormément de messages d'auditeurs qui nous demandent un petit au revoir de votre part avec la voix de Son Goku. C'est possible ?
Oui, bien sûr que c'est possible. Alors, aidez-moi à appeler Rachida Dati pour lutter contre l'intelligence artificielle dans le doublage. Merci les copains.
Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Sangoku et Brigitte Lecordier, c'est la même personne. Victor Garcas vient d'entrer dans ce studio. Dans un instant, l'auditeur du bout du monde.
L'auditeur du bout du monde, vous pouvez gagner un guide du routard pour ça. Il faut deviner où est-ce qu'on va. Et pour ça, un indice sonore. Vous l'avez reconnu ? De Mireille Mathieu.
J'ai besoin d'aide là.
Il s'agit de Mireille Mathieu qui chante dans la langue locale. Vous nous envoyez un message sur l'application RTL et vous repartez avec un guide du routard.
Je vais tricher pendant la pub.
Jusqu'à 14h30.
Vincent Derosier vous donne la parole sur RTL.
Chez Potron Sofa, le confort est surprenant. Découvrez sa vaste et laissez-vous étonner par ces dossiers réglables en un seul geste.
Jusqu'à demain, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 536 €.
Venez vous étonner en magasin. Potron Sofa, solo divan et de qualité.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Les saisons, c'est pas facile à suivre. Alors pour savoir si c'est le bon moment pour vos fruits et légumes, le plus simple, c'est de venir chez Biocoop. Si c'est en rayon, c'est que c'est la saison. Parce que consommer de saison, c'est respecter la nature. Chez Biocoop, vous ne trouverez que des fruits et légumes 100% bio et 100% de saison.
Et du 25 au 29 avril, les radis en bottes sont au prix engagé de 3 € le lot de 2.
Biocoop, du bon sens et rien d'autre.
Opération valable dans les magasins Biocoop participants. Les radis sont à 1,75 € la botte.
Le jour où son mari Aymeric est victime d'un grave accident de voiture, Alice voit sa vie s'écrouler. Face à l'incertitude du destin, elle va devoir s'adapter aux épreuves pour faire renaître l'espoir. Prendre la vie comme elle vient, un roman qui nous parle de la vraie vie. Cette vie remplie d'obstacles, mais surtout d'amour et de courage. Prendre la vie comme elle vient de Karen Ponte est disponible aux éditions Pocket.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Pas vrai, Jean ?
Absolument.
Alors écoutez ça. Aujourd'hui, pendant le Top Rayon, exclusivement avec ma carte Netto, recevez un bon d'achat de 30% du montant dépensé sur tous les produits d'entretien de marque Netto.
30% en bon d'achat ?
Oui, grâce à ma carte Netto dans l'application de votre téléphone.
Pour le grand nettoyage de printemps, voilà une offre qui sent bon les économies.
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Offre réservée aux porteurs de ma carte Netto. Plus d'infos sur netto.fr.
Les auditeurs ont la parole. Vincent Derosier sur RTL.
L'auditeur du bout du monde. Où est-ce qu'on part ? Est-ce qu'on a un gagnant ? Enzo ?
Oui, tout à fait. On part dans la province de Guizhou en Chine et c'est Serge de Paris qui remporte le guide du routard.
L'auditeur du bout du monde.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous nous appelez d'où, Frédéric ?
Je vous appelle de Guiyang, dans le Guizhou, en Chine.
Ce qui explique le tout petit décalage. Pourquoi être parti là-bas ? Ouais.
J'avais envie de nouveaux challenges. Je commençais un petit peu, ça faisait 20 ans que j'étais dans mon métier de directeur informatique en France. J'ai une deuxième passion qui est le BMX. Et du coup, j'ai voulu changer complètement et faire de ma passion en fait mon métier.
Parce que vous êtes chef d'entreprise et breton, hein, voilà. Donc la Chine, c'était pas forcément le premier choix quand on pense comme ça à une reconversion.
Non, mais en fait, j'avais fait les championnats du monde en Chine en 2008 et je suis tombé amoureux du pays. Donc, du coup, quand en 2014, j'ai décidé de trouver un nouveau challenge, je me suis dit que la Chine, c'était plutôt pas mal.
Et alors, du coup, vous êtes consultant pour l'équipe de Chine de BMX. Comment ça s'est passé, cette collaboration? Ils sont venus vous chercher?
Ben, en fait, je suis aussi le head coach du Guizhou BMX Team. Donc, je coach mon team, l'équipe du Guizhou, et je suis consultant en plus pour l'équipe de Chine. Mais avant ça, en fait, j'ai créé mon entreprise là-bas avec ma femme qui est chinoise. Hein. On s'est mariés début 2016.
Ça fait une bonne raison de rester.
On a créé notre entreprise. C'était une bonne raison de rester, ouais, tout à fait. On a un fils ensemble qui a 7 ans et demi. Et du coup, on a fait plusieurs projets, donc on s'est fait connaître petit à petit tout au long de ces 7 années. On s'est fait connaître dans le Guizhou pour faire des projets divers et variés. On a créé un chemin de rando de 26 km dans les montagnes, dans les villages de la minorité Miao.
Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre vie d'expat au quotidien?
Ah, c'est une vie d'aventure en fait. À chaque fois qu'on va rencontrer un gouvernement local dans les villages, à chaque fois c'est un émerveillement total. On est complètement en dehors des sentiers battus, des circuits touristiques, etc. Donc, je suis au contact des vrais habitants du Guizhou, en fait.
Et qu'est-ce qui vous manquerait le plus si jamais vous deviez rentrer un jour en France?
J'ai pas du tout envie de rentrer, en fait. Oh. non, je pense que c'est, cette vie-là. Écoutez, j'ai vécu en Bretagne pas mal d'années, donc maintenant je découvre d'autres horizons et en fait non, il y a des choses qui me manquent de la Bretagne, bon, ma famille en Bretagne déjà, mais sinon la Bretagne est dans mon cœur, donc j'ai pas besoin d'être en Bretagne pour me sentir breton.
Votre ami est déjà venu vous voir en Chine?
Comment?
Est-ce que votre famille bretonne est déjà venue à vous en Chine?
Alors, j'ai mon grand-fils qui est venu deux fois m'aider sur des projets. Les autres, pour l'instant, sont pas encore venus parce que y a eu 3 ans de Covid qui nous ont un petit peu enquiquiné là les 3 dernières années. Donc maintenant, les portes sont à nouveau ouvertes. En plus, maintenant, il est possible de rentrer en Chine pendant 15 jours sans visa en venant de France. Donc ça facilite un petit peu les choses. Donc, pourquoi pas, dans l'avenir, les faire venir également.
Et vous conseillez à nos auditeurs de venir faire un tour, hein. C'est une belle région qui se visite.
Ah, le Guizhou, c'est 92% de montagne. Guiyang est à 1200 mètres d'altitude. On a un climat
ah oui, ça se visite
tropical
pour les randonneurs,
ouais. Pour les randos, pour le VTT, pour beaucoup de sports extrêmes. Et en fait, le fait d'être en altitude, en fait, on n'a pas les problèmes du climat tropical qu'ils ont par exemple à Shenzhen, ou très chaud, très humide. Ici, en fait, il fait beaucoup moins chaud. On a une saison des pluies qui est assez marquée, mais par contre, on a une arrière-saison qui est absolument superbe de septembre à novembre. C'est vraiment sympa. Mmh. Et après, on a un hiver de 2-3 mois, et là, c'est reparti. Là, on a encore un climat qui est absolument magnifique là en ce moment. Aujourd'hui, on était en t-shirt dehors.
Merci beaucoup, Frédéric. Et on vous souhaite le meilleur pour votre vie d'expat en Chine. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous sur RTL. 14h28, c'est tout bientôt que Jean-Alphonse Richard prend les commandes.
Et on y arrive, oui, c'est tout de suite avec le meurtre d'Audrey Jouanet, tué par un violeur récidiviste qui s'était inspiré d'une série télé. À tout de suite.
L'heure du crime, à tout de suite.
J'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand?
Désolé, le mouton à 5 pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit.
APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
Au printemps, vous et votre trottinette électrique, vous êtes inséparables. Vous avez même hâte d'être lundi pour aller au boulot avec.
C'est parti.
Mais on est dimanche là.
Pas grave, j'y vais quand même.
Pas étonnant, avec l'autonomie jusqu'à 55 km de la trottinette qu'on a sélectionnée chez Decathlon. Et pour vivre le sport grandeur nature, cette semaine la trottinette électrique Ninebot F2+, est à 499€ au lieu de 599, 60€ de réduction. Decathlon, élue meilleure chaîne de magasins de sport de l'année.
RTL présente l'exposition Achille et la guerre de Troie au musée de la Romanité à Nîmes. Plongez au cœur de cette épopée mythique à travers une centaine d'œuvres exceptionnelles et une fresque numérique immersive. Achille et la guerre de Troie, actuellement au musée de la Romanité à Nîmes, avec RTL.
Tout savoir sur le reconditionnement des voitures d'occasion avec Autosphère. Vous souhaitez une voiture au prix de l'occasion mais avec une fiabilité irréprochable ? Rendez-vous dans un instant.
RTL 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Gardien d'immeubles appréciés, mais aussi pervers, diabolique et retors, qui n'avait pas hésité à récupérer un préservatif usagé pour brouiller les pistes après son dernier crime, le viol et le meurtre d'une jeune habitante de son immeuble.
Bonjour, Jean-Luc Caillez était le paisible concierge d'une résidence de l'Essonne, toujours prêt à rendre service. Les habitants disaient de lui qu'il avait le cœur sur la main. Jusqu'à cette fin d'été 2005 où les gendarmes sont venus l'interpeller dans sa loge, soupçonné d'avoir attaqué et tué Audrey Joannet, une jeune résidente de 24 ans. Va alors apparaître la trajectoire de cet homme, un violeur récidiviste, habité par la violence et la volonté de posséder les femmes. Un pervers qui a calqué le scénario de son crime sur un épisode de série télé américaine. Un plan d'une ingéniosité machiavélique qui a bien failli fonctionner. Les enquêteurs et les psychiatres vont longuement s'interroger sur le personnage. Qui est donc ce dissimulateur qui semble si satisfait d'être arrivé à ses fins? Pourquoi disait-on de cet homme sans pitié qu'il était devenu inoffensif? Question posée à nos invités. L'affaire Audrey Joannet, le double visage du concierge. Moi aussi, je mène mes propres recherches. Il faut vraiment retrouver le salaud qui a fait ça. L'enquête de l'heure du crime, la seule émission radio 100% fait divers. À tout de suite sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
Savoir sur le reconditionnement des voitures d'occasion avec Autosphère. Laurent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre expert auto. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'un véhicule d'occasion reconditionné?
Alors, c'est comme un véhicule d'occasion qui serait sorti d'usine. Il a suivi un processus de rénovation pour retrouver sa première jeunesse. Mm-hmm. C'est ce qu'a fait Autosphère en mettant au point un parcours très rigoureux de remise en état qui se finit par une vérification qualité sur 100 points de contrôle.
Et que garantit Autosphère dans cette démarche de reconditionnement?
Alors souvent, avec l'achat d'une voiture d'occasion, on a peur des défauts cachés du véhicule, des coûts d'entretien.
C'est vrai.
Eh bien, grâce à un reconditionnement minutieux, Autosphère assure une qualité irréprochable et la fiabilité de ses véhicules. Et il y a même une garantie de 12 mois minimum incluse, valable dans ses 250 concessions en France.
Ça, c'est rassurant.
Ah oui, et Autosphère permet aussi à ses clients de se faire rembourser sous 30 jours ou 1000 km s'ils ne sont pas satisfaits, ce qui est un vrai gage de confiance. Et les conditions sont sur autosphère.fr.
Merci Laurent pour ces explications.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Mais U, peut-on trouver 4 fruits et légumes à prix coûtant chaque semaine?
Ici, dans les magasins U, il y a plein de fraises à prix coûtant. Et à seulement 2,69€ la barquette. Ah, j'ai couru pour pas rater ça.
Ouh. Retrouvez chaque semaine 4 fruits et légumes à prix coûtant. Du 25 au 27 avril dans vos magasins U, les fraises rondes à prix coûtant sont à seulement 2,69€ la barquette de 500 grammes, soit 5,38€ le kilo. U, commerçant autrement.
Catégorie 1, origine France par modalité et magasin participant sur magasin-u.com.
14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Dans l'heure du crime, nous revenons aujourd'hui sur le viol et le meurtre à la fin de l'été 2005 dans l'Essonne d'Audrey Joannet, une jeune femme de 24 ans. Une attaque sauvage derrière laquelle va apparaître au fil des jours le visage familier et amical du concierge.
Jeudi 15 septembre 2005, les amis d'Audrey Joanet sont surprises de ne plus avoir de ses nouvelles. Les copines devaient pourtant se rappeler pour organiser une sortie, mais Audrey ne répond pas. Les appels échouent sur sa messagerie. Audrey travaille normalement à Londres dans un restaurant, mais elle est en ce moment en France. Elle occupe seule un appartement au deuxième étage du domaine de Gerville, une résidence tranquille à Soisy-sur-Seine dans l'Essonne. Une des copines se rend sur place, sonne à l'interphone, aucune réponse. Au deuxième étage, les rideaux sont tirés. La Peugeot 206 d'Audrey est sur le parking, impossible d'entrer dans le logement. Une voisine qui a normalement un double des clés ne retrouve plus le trousseau, il a mystérieusement disparu. Le gardien, Jean-Luc Caillez, est alerté. Il n'a pas les clés, mais propose de laisser le mot suivant sur la porte. Mademoiselle Joanet, joindre la police municipale à votre retour. Inquiétude des proches. Signé Monsieur Caillez, le gardien. 17 septembre, Marie-Antonia Joanet, la mère d'Audrey, qui habite à une centaine de kilomètres de Soisy-sur-Seine, est alertée de l'absence de sa fille. Elle arrive à la résidence avec les clés. Le logement est vide. Les valises d'Audrey ne sont pas défaites. Son ordinateur traîne sur le canapé. Personne dans la chambre. Marie-Antonia Joanet quitte les lieux, mais a un pressentiment. Elle y revient. Dans la nuit, elle regarde sous le lit. Il y a là le corps nu de sa fille. « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» demande la maman, avant de comprendre qu'Audrey est morte. À 1h45, la gendarmerie est alertée. Dimanche 18 septembre 2005, lendemain de la découverte du corps, les légistes indiquent qu'Audrey Joanet a été étranglée avec un lien. Des traces sont clairement visibles autour du cou. Elle présente aussi des ecchymoses sur les bras et les avant-bras. Elle s'est défendue. La victime a été ligotée au poignet, aux chevilles, bâillonnée avec de l'adhésif. Elle a été violée. Des traces de sperme sont retrouvées et confiées au laboratoire, tout comme un ticket de caisse sur lequel figure une tache de sang. Le 7 octobre, une analyse toxicologique indique que l'organisme de la jeune femme présente des traces de sédatifs, de somnifères, produits destinés à neutraliser sans doute sa vigilance. Les gendarmes de la section de recherche de Paris multiplient les auditions auprès des proches d'Audrey. Sa grande sœur Karine la dépeint comme une fille pleine de vie. Sa mère la décrit comme une enfant adorable, intelligente, spontanée, qui aime le contact avec les autres. Les enquêteurs sont intrigués par le comportement du gardien de l'immeuble, Jean-Luc Caillez, 48 ans. Ce célibataire se met en quatre pour les aider. À un résident, il a confié qu'il menait sa propre enquête et qu'il fallait vraiment retrouver le salaud qui a fait ça. Les gendarmes apprennent que le 14 septembre, trois jours avant la découverte du corps, Caillez était soudain invisible. Les résidents ont tambouriné à la porte de sa loge, mais sans succès. Les pompiers ont été appelés, ils ont actionné leur sirène. Le gardien a alors entrebâillé sa porte pour indiquer que tout allait bien. Il n'avait pas besoin d'aide, il était tout simplement fatigué. Les enquêteurs s'aperçoivent que cet ancien légionnaire a un casier judiciaire chargé. C'est un violeur, récidiviste, condamné à 7 ans de prison en 84, puis 20 ans pour un deuxième vol en 91, en liberté depuis 3 ans sans suivi médical. Il y a quelques mois, une habitante de la résidence a porté plainte contre lui. Elle l'avait surpris alors qu'il pénétrait chez elle. 20 septembre, 9h15, Jean-Luc Caillez est interpellé, en garde à vue. Il nie. Après 24 heures d'interrogatoire, tout se complique pour les enquêteurs. Avec le résultat des tests ADN, le labo leur apprend que le sperme retrouvé sur la victime n'est pas celui du suspect, mais il appartient à un autre homme, un ADN inconnu. Et là, on va voir comment les enquêteurs vont réagir à cette nouvelle, car si l'ADN de Caillez n'est pas celui de la scène de crime, alors le concierge pourrait être mis hors de cause. Dans la suite de l'émission, on va suivre ces dernières heures de garde à vue qui vont se révéler capital. Restons pour le moment derrière les murs du domaine de Gerville, au deuxième étage de cette résidence. Bonjour Cécilia Catalano.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes réalisatrice en chef chez Tony Comiti et vous avez réalisé un excellent épisode de l'émission Indice sur cette affaire.
Merci.
J'ai visionné évidemment le calvaire de l'étudiante, c'est l'affaire Joanet, l'épisode qui est disponible sur rmcbfmplay.com. Voilà, si on veut retrouver cet épisode, mais ça vaut le coup d'aller le visionner. Cécilia Catalano, il y a cette scène on ne sait pas trop si c'est une scène de crime, en fait. Le corps a été dissimulé sous le lit. On sait qu'il y a une mise en scène, en tout cas.
Bah, on peut surtout se dire que le coupable, le violeur, celui qui a tué Audrey Jouanet, a voulu retarder un certain nombre de choses et évidemment la découverte de son corps. Alors retarder comme il a pu, hein, parce qu'il a
bien sûr
pu cacher le cadavre d'une manière voilà, incroyable. Mais effectivement, oui, il a voulu retarder le moment où on allait découvrir son corps.
Il y a quelque chose d'étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'effraction. L'appartement, il semble en ordre. On se dit que c'est quelqu'un qui a les clés, un familier à qui elle a ouvert.
Un proche, oui. Ça, c'est déjà, c'est souvent le cas hein, dans les affaires de meurtre, d'une manière générale. Et effectivement, l'absence de traces d'effraction permet d'orienter vers cette hypothèse. Alors, on verra par la suite qu'en réalité, ça fait partie, quelque part,
du mode opératoire, bien sûr.
Du mode opératoire et de la mise en scène.
Oui. Le corps d'Audrey est nu, elle a été violée, on ne va pas rentrer dans les détails, parce qu'ils sont assez sordides, ces détails. Pas question de faire ça aujourd'hui. Le corps d'Audrey est nu, et il semble qu'il a été nettoyé. On a effacé les empreintes partout à cet endroit, même si on retrouve effectivement du sperme.
Effectivement, c'est très méticuleux. C'est-à-dire que là, on peut imaginer qu'on n'est pas dans une pulsion. Bon, déjà, l'absence de traces d'effraction, etc. Enfin, voilà, on est dans un acte qui a été pensé, qui n'est pas. On n'est pas dans un crime a priori d'opportunité. Voilà, un rôdeur, une mauvaise rencontre. On est dans quelque chose qui a été réfléchi. Mmh. Et c'est d'autant plus glaçant car effectivement, la pauvre Audrey Jouanet a vécu, a été
un calvaire.
C'est un calvaire. Barbare.
D'ailleurs, les légistes vont bien s'apercevoir qu'il y a des traces de coups, qu'il y a des blessures qui sont infligées. On l'a étranglée. Il y a du sparadrap. Elle a été manifestement séquestrée. Il n'y a pas de doute pour les légistes.
Et maintenue en vie aussi par celui qui l'a torturée et lui a infligé des sévices véritablement innommables.
Mais, alors, encore une question. Cécilia Catalano, on est dans une résidence tranquille, Soisy-sur-Seine, c'est un petit immeuble, tout le monde se connaît, et cette famille Jouanet d'ailleurs on la connaît, puisque ça leur appartient cet appartement. On se demande ce qui s'est passé, parce que personne n'a rien vu, rien entendu.
Alors, personne n'a rien entendu, c'est pas tout à fait vrai.
D'accord.
Il y a eu des voisins qui ont entendu, dans la nuit du 13 au 14, des cris de femmes, vers 4h du matin. Mais ça ils ne l'ont dit qu'aux gardiens de l'immeuble. Voilà, donc c'est évidemment, les enquêteurs vont s'en rendre compte, mais rien entendu.
Ils l'ont rapporté aux gardiens de l'immeuble, ils ont entendu des cris, c'est ça?
Oui, effectivement. Dès le lendemain, dès le 14 septembre, des gens qui ont dit aux gardiens de l'immeuble qu'il y avait eu ces cris de femmes à un moment donné, et ça... Jean-Luc Caillez ne s'est pas empressé de le dire aux gendarmes.
Alors oui, parce que les gendarmes, évidemment, ils s'intéressent à ce personnage. Jean-Luc Caillez, c'est le gardien de la résidence, c'est le concierge. Bonjour, maître Laurent Franck-Liénard. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes avocat au barreau de Paris, et on vous connaît bien, évidemment, vous avez de nombreux dossiers en cours. Vous êtes, dans cette affaire, l'avocat de la famille d'Audrey Jouanet, et notamment de la maman et de sa sœur. Et puis, je cite votre dernier livre, « Avocat des flics », publié aux éditions du Nouveau Monde. Alors, dans cette affaire, ce ne sont pas les flics, mais ce sont les gendarmes qui s'occupent du dossier. Tout de suite, ils s'intéressent à cet homme. Pourquoi ? Parce qu'il a un profil un peu particulier ?
Alors non, ce qui est amusant, c'est que c'est plutôt le gardien d'immeuble qui s'intéresse aux gendarmes. Il est dans leurs pattes, les gendarmes arrivent, commencent à faire leurs investigations, les constatations, et le gardien est omniprésent, et il va au devant d'eux en leur disant « De toute façon, vous allez vous intéresser à moi parce que j'ai un casier ».
Ah, c'est lui qui...
Et donc c'est lui qui dit ça.
Ah bon, d'accord. Ouais.
Et les gendarmes à ce moment-là sont un peu interloqués, et Caillez dit oui, j'ai un casier de violeur. Et le directeur d'enquête lui répond du tac au tac et assez brutalement, je cherche pas un violeur, moi je cherche un tueur ici. Mmh. Et tout de suite ils comprennent qu'il y a un truc qui va pas. Il y a pas de raison sur une scène de crime avec un mort que quelqu'un arrive en disant j'ai un passé de violeur, donc ça peut être moi.
Il prend les devants. Et il prend les devants parce que de toute façon il sait que le casier va être examiné un jour ou l'autre, c'est une évidence. Et ce casier, il est chargé, maître Liénard.
Alors, il est très chargé parce que il a deux condamnations pour viol avec acte de torture et de barbarie, les deux. Et il a, dans les deux affaires où il a été condamné quand même assez lourdement, la dernière fois 20 ans, il ne fait que 12 ans, mais avec un rapport psychiatrique qui dit que la récidive est certaine.
Ah, le rapport est formel là-dessus.
Dans les deux affaires, les deux experts psychiatres qui se sont penchés sur Keyes ont tous les deux dit la récidive est certaine. Mmh. Elle est plus que probable. Et donc, on a un profil qui est quand même vraiment très très inquiétant. Et c'est vrai que ce gars-là, quand il arrive auprès des gendarmes en disant « vous allez vous intéresser à moi », y a quelque chose qui cloche, ouais, évidemment. Mais on comprendra pourquoi il va vers les gendarmes. C'est parce qu'il pense que les preuves matérielles qu'il a fabriquées lui-même le dédouanent totalement, notamment l'ADN.
Donc il est tranquille.
Il est tranquille.
Il affiche un visage tranquille.
Et il est impatient qu'on fasse la recherche.
Un suspect qui est en garde à vue, l'ADN n'est pas le sien. Les gendarmes vont donc abattre leur dernière carte. L'affaire Audrey Joanet, le double visage du concierge. C'est mieux que vous m'arrêtiez maintenant, car je pense que j'aurais recommencé. L'enquête de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Chez Poltrone Sofa, le confort est surprenant. Découvrez sa vaste et laissez-vous étonner par ses dossiers réglables en un seul geste.
Jusqu'à demain, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 536 €.
Venez vous étonner en magasin. Poltrone Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. À tous ceux qui montrent une photo de leur chien ou de leur chat pour que vous disiez « Oh, il est mignon !» et pour qu'ils répondent « Il a 3 ans, à la base c'était celui de mes voisins et... » Pardon Pascal, mais personne t'a demandé. On voulait juste être sympa. Intermarché rembourse 50% de vos achats sur le rayon alimentation chien et chat en 2 bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bons d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 avril, des 15 € et jusqu'à 25 € d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde? DS Automobile présente le surclassement en DS7 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux? Jusqu'au 30 avril, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS7 Crossback E-Tense hybride rechargeable d'occasion à partir de 390 € par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pensez à covoiturer.
RTL présente l'exposition Achille et la guerre de Troie au musée de la Romanité à Nîmes. Plongez au cœur de cette épopée mythique à travers une centaine d'œuvres exceptionnelles et une fresque numérique immersive. Achille et la guerre de Troie, actuellement au musée de la Romanité à Nîmes avec RTL. Rouge des Prés.
De chez le boucher.
En boucher.
En faufilé.
En onglet.
Dans un étoilé.
Dans un troquet.
En pavé.
En chili con carne.
Grillé.
Mariné.
Rissolé.
En gelée.
Fumé.
Parfumé.
Mijoté.
Snacké.
Du Loiret.
De Vendée.
De Franche-Comté.
Et sans compter.
Chez nous, le bœuf. Qu'il y en a pour toutes les bouches.
Oui.
L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard.
Jusqu'à 15h30 sur RTL.
Heure du crime, consacrée aujourd'hui à la mort d'Audrey Joanet, 24 ans, retrouvée étranglée et violée dans son appartement en septembre 2005 dans l'Essonne. Le gardien de la résidence, violeur récidiviste, est en garde à vue 3 jours après la découverte du corps. Mercredi 21 septembre 2005, deuxième jour de garde à vue de Jean-Luc Caillez, les gendarmes sont face à un dilemme. Ils étaient persuadés que le sperme retrouvé sur le corps de la victime était celui du suspect, mais ce n'est pas le cas. On a pris un vrai coup de bambou sur la tête, il nous restait 24 heures pour le faire avouer. Plus beaucoup de temps sous peine de devoir le libérer, se souvient un enquêteur dans le journal Le Parisien. Caillez n'est pas informé des résultats des tests ADN. On l'interroge sur les découvertes faites chez lui. Plusieurs paires de gants, des rouleaux d'adhésif entamés, une longue corde ou encore un livre, L'étrangleur masqué, signé Michael Prescott, l'histoire d'un criminel sexuel qui entre dans les appartements de femmes et les assassine. Caillez finit par avouer qu'il a tué Audrey Joanet. Il avait tout prévu. Dans la nuit du 13 au 14 septembre, à 4 heures du matin, il est monté chez la jeune femme. Il avait le double des clés, trousseau volé chez la voisine. Mais la porte était bloquée par la sécurité. Il a frappé en disant « C'est moi,
Ouvre ! Audrey est apparue, à moitié endormie. Il a mis un coup d'épaule, il l'a poussée dans la chambre, lui a attaché les mains dans le dos, l'a déshabillée et a tenté d'abuser d'elle. Il était cagoulé, ganté, armé d'un fusil à canoncier et d'un couteau. Vers 6h15, il a entraîné la jeune femme sous la menace du fusil jusque dans sa loge. Il l'a gardée toute la journée. Audrey, qu'il avait reconnue, a été bâillonnée. Il a continué à lui faire subir des sévices quand il a reçu un message d'un résident demandant pourquoi le courrier n'était toujours pas dans les boîtes aux lettres. Il s'est demandé « Qu'est-ce que je vais faire si je ne la tue pas ?» C'est la prison. Il l'a étranglée avec une corde à sauter. Jean-Luc Caillez, très bavard, explique avoir pris toutes les précautions pour ne laisser aucun indice. Il a tué Audrey Joanet dans sa loge et non chez elle. Il a pris soin de lessiver le corps avant de le ramener dans l'appartement. Pour le sperme masculin retrouvé sur la jeune femme, il s'est inspiré de la série télévisée américaine NCIS qui met en scène des experts de police scientifique. Chargé du local poubelle, il a récupéré quelques jours avant le meurtre le préservatif usagé d'un résident et l'a congelé avec une seringue. Il a dispersé quelques gouttes sur le corps de la victime. Si Caillez avait été libéré à l'issue de sa garde à vue, le sperme aurait fatalement conduit au voisin, lequel aurait certainement fait l'objet de toutes les suspicions. C'est diabolique, quasiment imparable, dit un magistrat. Suivant les indications de l'ancien légionnaire, les gendarmes retrouvent dans la scène les vêtements d'Audrey, des draps, des cagoules, des gants, des liens. Après ses aveux, Jean-Luc Caillez déclare « C'est mieux que vous m'arrêtiez maintenant, car je pense que, malheureusement, j'aurais recommencé de tels actes. » Jeudi 22 septembre, la juge d'Evry, Catherine Larminia, met en examen Jean-Luc Caillez pour viol, acte de barbarie, récidive et homicide volontaire. Le procureur Jean-François Pascal se félicite de cette enquête qu'il présente comme exemplaire. Il évoque la personnalité complexe et très inquiétante du meurtrier présumé. Le lieutenant-colonel Jean-Philippe Guérin estime que Caillez a gravi les échelons de la dangerosité, passé de voleur à violeur, puis à meurtrier. Lors des deux premières affaires de viol, il avait été reconnu par ses victimes, mais leur avait laissé la vie sauve. Là, il a choisi de tuer, précise le gendarme. Au domaine de Gerville, les résidents sont accablés par ce dénouement. Tout le monde connaît ici la famille Joanet. On est encore abasourdi par l'arrestation de ce concierge qui s'occupait des fleurs, toujours prêt à rendre service. Dans les jours qui ont suivi le meurtre, on l'a vu vaquer à ses occupations habituelles. Le jour de la découverte du corps, il m'a dit que les gendarmes étaient chez lui car ils avaient trouvé un cheveu blond. Il se comportait comme si de rien n'était alors que c'était lui. J'en ai froid dans le dos, commente une habitante. Jean-Luc Caillez est arrêté, il a beaucoup parlé aux enquêteurs, puis face à la juge, mais a-t-il tout dit ? Ben, rien de moins sûr. Et puis pourquoi ce récidiviste doublement condamné était-il alors dans la nature ? On va répondre à ces questions dans la suite de l'heure du crime. Maître Laurent Franck-Liénard, vous êtes avec nous dans cette heure du crime, avocat au barreau de Paris, et dans cette affaire, vous défendez les intérêts de la famille d'Audrey Joanet. Alors, on va en parler tout de suite, mais c'est extraordinaire cette histoire d'ADN. Il a tout prévu, il a pris un ADN étranger finalement, retrouvé dans une poubelle, il l'a congelé, et il l'a placé sur le corps, tout ça pour aiguiller vers un autre homme. C'est diabolique, le terme est parfois un peu très usité, mais c'est diabolique.
Alors c'est totalement machiavélique et c'est très intelligent. Il ne vole pas l'ADN d'un voisin, il vole l'ADN, un préservatif plein, d'un homme de passage qui vient voir sa maîtresse, qui est un homme marié. Et deux fois, il va voler un préservatif. La première fois, ce préservatif va être utilisé sur Audrey Joanet, mais après le meurtre d'Audrey, il va voler un deuxième préservatif du même sperme, du même homme. C'est-à-dire que son but était de tuer les deux femmes en mettant dans les deux corps le même sperme, celui de cet homme de passage qui venait voir sa maîtresse.
C'est extraordinaire.
Et donc on aurait trouvé deux cadavres avec ce sperme. Il n'aurait pas eu d'alibi puisque les deux soirs, il était là. Et homme marié qui trompe sa femme, donc menteur invétéré, il n'aurait eu comme soutien que celui de sa compagne qu'il venait voir occasionnellement et qui aurait pu dire qu'il était effectivement là le soir des faits, il était totalement indéfendable, ce garçon, et il aurait été condamné sur la base du sperme.
En tout cas, inquiété.
Très, très inquiété, et avec de fortes présomptions, il aurait été condamné sans pouvoir se défendre utilement, puisque il y avait deux cadavres, il y avait deux fois son sperme, et c'était machiavélique de la part de Cahiers, imaginez ça.
C'est tout à fait malicieux, effectivement, il a pu s'inspirer d'une série télé, NCIS, il a lu beaucoup aussi de documentation là-dessus, sur comment truquer un crime, etc. Mais bon, là, effectivement, c'est un cas de figure qui est extrême et presque réussi. Cécilia Catalano, vous êtes réalisatrice en chef chez Tony Comiti, et je rappelle que vous avez réalisé un épisode de l'émission Indice sur cette affaire. On a quand même le sentiment que il attendait un peu cette interpellation, Cahiers. Il s'est montré aux gendarmes. Alors, je ne vais pas dire qu'il est soulagé, parce qu'on dit toujours ça, parfois les gens sont soulagés, mais il va dire, heureusement que vous m'avez arrêté, parce que sinon j'allais recommencer.
Oui, alors ça c'est une fois qu'il a avoué, parce que
on est d'accord.
Il a quand même nié, et effectivement il s'est préparé à ça.
Et il a fallu attendre 24 heures pour qu'il avoue. Hein.
Il a fallu attendre 24 heures, et je me permets une petite digression, il a fallu aussi le concours, l'aide de Marie-Laure Brunel, de l'IRCGN, qui est aujourd'hui à la tête de la cellule Diane, qui est la première profileuse de France. À l'époque, elle est toute petite, elle vient de débarquer à l'IRCGN, donc voilà, les experts de la gendarmerie qui font un travail formidable, et elle intervient sur ce dossier, alors de manière très officieuse, hein, la cellule n'est pas encore constituée.
Elle regarde, c'est ça ?
Elle est à l'extérieur, donc quand les résultats ADN tombent, est-ce qu'on le relâche, est-ce qu'on ne le relâche pas ? Une garde à vue, hein, bon, il y a un temps limité, donc est-ce qu'on le relâche pour après, éventuellement, le réinterroger avec d'autres éléments ? La question se pose, voire même, ils sont un peu, les enquêteurs qui l'auditionnent sont un peu poussés, on leur demande plutôt de le relâcher, et Marie-Laure Bonnet, elle va avoir une idée, elle a remarqué que Jean-Luc Cahiers a des rapport très conflictuel avec sa mère, voilà, une histoire, bon, je suis pas psy, mais...
De famille, enfin, voilà.
Oui, on va dire que, voilà, il a un peu peur de sa mère, et depuis le début, il dit toujours qu'il vous voit, mademoiselle Joannet, voilà, c'est le mot sur la porte, mademoiselle Joannet, est-ce que vous... Puis ils vont un peu le pousser dans ses retranchements en disant « Ah, mais votre mère, elle dit que quand vous lui parlez, mademoiselle Joannet, et puis à cette occasion, vous la tutoyez, mademoiselle Joannet. » Elle dit « Non, c'est pas vrai. Ah bon, c'est pas vrai, monsieur Joannet. » Ils vont lui faire croire que sa mère est juste à côté et qu'ils vont les confronter.
Incroyable.
Et là,
incroyable.
Entre sa mère et la tôle, bah en gros, le mec,
il a choisi.
Il préfère la tôle.
Ah oui.
Et ça, c'est quand même absolument vrai. Donc là, il s'effondre, il avoue, et voilà. Et cet aveu-là, c'est une science, hein, l'expertise
dans
le comportement. Mais... Voilà, mais c'est évidemment un travail, mais c'est...
Oui, mais la profileuse a eu l'œil exact et elle a eu le flair. Elle a senti qu'il y avait une faille, ils se sont engouffrés.
Elle a vu
ça
la bonne.
Ça a fonctionné.
Ouais, ouais.
Et ça, c'est extraordinaire. Maître Laurent Franklinard.
Oui, au moment de ses aveux, Cahiers dit aux gendarmes, bon, ok, je vais vous dire, c'est moi. Et donc, les gendarmes, alors ça change tout, hein, parce que quand il va y avoir des aveux, on fait venir les gendarmes, on fait venir tout le monde, on commence à taper le procès à balle. Et là, Cahiers dit, mais je vais vous poser une question, à votre avis, elle est morte quand ? Et donc, les gendarmes disent quand ils estiment l'heure de la mort. Et il les regarde en rigolant, et il dit, non, elle est morte bien plus tard que ça.
Ah. Ouais.
Voilà, c'est pour vous montrer un peu
le degré de sadisme.
Le degré de sadisme et le profil du garçon.
Et le jeu commence, enfin continue.
Le jeu continue.
Alors, question qui m'intrigue pour vous, maître Laurent Franklinard. Il a tout préparé, cet homme. Il a tout préparé, la seringue avec le sperme, le calcul, les horaires, la porte, le trousseau de clés. Il n'est pas mis en examen pour assassinat.
Non, on a estimé.
Il n'y a pas de préméditation. Alors là,
on a estimé que le meurtre ne relevait pas de la préméditation, puisqu'il dit qu'il s'est trouvé un moment coincé avec sa victime. Il a quand même eu 18 heures avec lui, sous son pouvoir. Et au bout de 18 heures, il ne sait plus quoi en faire. Et il dit, si je la relâche, elle va me dénoncer, donc je vais la tuer. Et que c'est donc sans préméditation qu'il l'aurait tuée. Alors qu'en définitive, définitive, on sait très bien tous que c'était prévu depuis le départ. Le premier sperme, il le congèle, le deuxième, il ne le congèle pas. Ça veut dire qu'il l'allait utiliser immédiatement après. Il avait véritablement ces deux meurtres qui étaient prévus. Il aurait dû faire l'objet d'une poursuite pour assassinat.
Et que l'issue était fatale, évidemment, ça aurait dû être qualifié un assassinat, je suis bien d'accord. Jean-Luc Caillès va être réentendu sans jamais reconnaître certains actes. L'affaire Audrey Joanet, le double visage du concierge. S'il n'était pas sorti, ma fille serait encore en vie aujourd'hui. L'enquête de l'heure du crime, le meurtre de la jeune femme aurait-il pu être évité? On en parle dans un court instant. Restez avec nous sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard.
Jusqu'à 15h30 sur RTL.
Ce vendredi, jackpot Euromillion de près de 150 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Jardiland célèbre son jardiversaire. Jusqu'au 5 mai, c'est la fête en magasin et sur jardiland.com. Au programme, des offres exceptionnelles, des animations et surtout notre grand jeu anniversaire avec plus de 4,5 millions d'euros de cadeaux à gagner.
Jardiland, cultivez votre bien-être.
Conditions et listes des magasins participants sur jardiland.com.
Au printemps, vous et votre trottinette électrique, vous êtes inséparables. Vous avez même hâte d'être lundi pour aller au boulot avec.
C'est parti.
Mais on est dimanche là.
Pas grave, j'y vais quand même.
Pas étonnant, avec l'autonomie jusqu'à 55 km de la trottinette qu'on a sélectionnée chez Decathlon. Et pour vivre le sport grandeur nature,